si Jésus est vraiment mort et ressuscité, que nos péchés sont pardonnés, que la vie éternelle existe, ça veut dire que les péchés des croyants sont pardonnés, que les croyants iront dans cette vie éternelle avec Dieu. Mais ça veut dire autre chose pour les autres. Alors, la résurrection de Jésus, les amis, ça veut dire quelque chose. Ça change des choses. Et ma prière pour ce soir, les amis, c'est que vous ayez une conviction sur cette question, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre. Vous ne pouvez pas rester mou sur cette question, c'est pas possible. On ne peut pas rester mou sur la question de la résurrection de Jésus. C'est fondamental, j'aimerais vous persuader ce soir que cette question est vraiment fondamentale. Je ne sais pas si vous aimez les jeux de société. Moi, j'aime bien, mais dans une certaine mesure. Au bout d'un moment, ça me saoule d'apprendre les règles. Il faut passer des heures carrées à essayer de comprendre l'ensemble des règles, et puis moi, je n'ai pas le cerveau qui arrive à emmagasiner tout ça, et au bout d'un moment, ça me saoule un peu. Mais je sais un truc, je suis certain d'un truc, c'est que si je ne connais pas les règles du jeu, je vais perdre. Et si je ne connais pas les règles du jeu, je vais aussi passer un sale moment. Ça, j'en suis sûr. Les amis, est-ce que Jésus est le Fils de Dieu, fait partie des règles du jeu de la vie? Pour savoir ça, on a besoin d'être affirmatif ou le contraire, être absolument certain de la réponse qu'on donne à « Jésus est ressuscité ». Si c'est oui, il faut absolument en être certain. Si c'est non, on a vraiment intérêt à en être certain. Donc on veut savoir si Jésus est vraiment ressuscité. Menez l'enquête. Est-ce que vous avez mené l'enquête? Restez pas avec cette question juste sur le côté en la laissant sans réponse. Menez l'enquête. On va voir dans Jean 20, vous pouvez prendre vos Bibles. Jean 20, c'est l'avant-dernier chapitre de l'évangile de Jean. C'est dans la page 704 dans les Bibles blanches. Le texte qu'on va voir, on va le faire en deux parties. On va le lire en deux parties. On s'arrêtera après le verset 15 pour la première partie. Les questions qu'on veut se poser, c'est la première, c'est pourquoi croire en la résurrection de Jésus? Et la deuxième, donc cette première question, pourquoi croire à la résurrection de Jésus? On va regarder en arrière. On va regarder les raisons qu'on aurait de croire à la résurrection de Jésus. Et la deuxième question qu'on veut se poser, c'est pourquoi, en deux mots, pourquoi croire en la résurrection de Jésus? Dans quel objectif? Qu'est-ce que ça change réellement de croire en la résurrection de Jésus? Une première partie où on va mener l'enquête, on va chercher les raisons. La deuxième partie où on va regarder les conséquences et ce que ça veut dire pour nous. Je commence la lecture, Jean 20, le verset 1. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin. Alors qu'il faisait encore sombre, elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon, Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait debout près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se penchait pour regarder dans le tombeau et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » On a une enquête. Vous avez tous déjà regardé un thriller, lu un livre qui parle d'un meurtre. Et qu'est-ce qu'on fait quand on enquête? On reconstitue, on observe, on analyse, on ramasse des preuves et on veut reconstituer l'histoire dans le but de faire éclater la vérité. On cherche quelque chose, on veut faire éclater la vérité. Ça, c'est dans le cas d'un meurtre. Comment on fait dans le cadre d'une résurrection? On n'a pas de mode d'emploi. A priori, le processus, c'est le même. On observe, on rassemble des preuves. On veut faire ressortir l'histoire de ce qui s'est passé pour faire éclater la vérité. C'est ce qu'on a là devant les yeux. Et on a Marie qui est là et qui enquête. Elle mène l'enquête. Première observation, c'est Jean et les autres évangiles disent la même chose. Montre que les premiers témoins de la résurrection, ce sont des femmes. Un élément pour nous à considérer, c'est qu'à l'époque, le témoignage des femmes n'avait aucune valeur juridique. Et donc quelqu'un qui veut convaincre ne s'y serait pas pris de cette manière-là à prendre les témoins les moins pesants dans l'enquête. Il aurait pris quelqu'un avec une forte autorité pour que ce qu'il dit puisse être considéré. Non, il prend comme témoins, les premiers témoins de la scène sont des femmes. Et premier indice, ça nous montre l'authenticité du récit. Et cette Marie qu'on voit, elle est terriblement triste. À plusieurs reprises, on la voit, qui dit « Ils ont enlevé le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Elle dit au verset 2, elle dit au verset 13 aux anges. Et quand elle voit ce jardinier, elle ne le reconnaît pas. Elle ne le reconnaît pas tellement elle est triste, tellement elle est affligée, aveuglée par la tristesse qui peut être là. Les amis, je pense que ça, c'est un premier élément qu'on peut prendre, que bien souvent les réalités qu'on a devant les yeux de ce monde physique, terrestre devant nous, ces réalités-là nous empêchent de voir des réalités spirituelles qui sont, elles, bien plus glorieuses, bien plus joyeuses, et où la consolation est juste là. Elle ne le voit pas, probablement parce que elle s'imagine, 3 jours avant, elle a vu un Jésus qui était torturé, ensanglanté probablement, avec les traces de la crucifixion. Elle a devant elle un Jésus qui a un corps glorifié, il y a encore les traces dans ses mains, dans son flanc. Mais ce n'est pas un Jésus ensanglanté. Et donc elle se projette à chercher un corps qui a cette forme-là et elle voit quelque chose d'autre. Il y a une nouvelle réalité qui est devant elle. Il y a une forme aussi de non-prise de risque dans sa position à elle de se dire, de rester avec les réalités terrestres devant les yeux et de ne pas se projeter avec quelque chose d'autre. Il y a une forme de non-prise de risque à rester dans ce qui est tangible, dans ce qui est palpable, dans ce qui est juste devant nous. Il y a une prise de risque à considérer la réalité spirituelle qu'il y a derrière. Marie enquête, Pierre enquête aussi. Pierre, on le connaît, c'est le tempérament fougueux des 12. Il fonce, il arrive, il rentre dans le tombeau. Qu'est-ce qu'il découvre? Regardez le verset 7. Au verset 7, il voit les bandelettes qui sont là, il voit le linge qui est là et qui est resté replié, en lieu et place où ils étaient probablement. Un indice peut-être pas déterminant, mais en tout cas un indice de ce qu'est ce corps glorieux de Jésus qui, dans un instant, on va le lire, va traverser les murs. Ils sont dans une pièce fermée, on va le voir. Et Jésus va traverser les murs. Ici, il a probablement traversé les bandelettes. Elles sont restées, elles se sont affaissées là où elles étaient. Et le corps de Jésus a simplement traversé ces bandelettes. Un indice pour nous de la réalité de la résurrection de Jésus. Pourquoi ? Parce que de nombreuses tentatives pour mettre ce récit-là de côté ou le faire taire allaient dans la direction de dire Le corps a juste été volé, en fait. Mais un voleur, il ne prendrait pas soin de plier le linge et de le mettre en lieu et place. Un voleur, il vole dans la précipitation, il s'en va avec soit tout qui est par terre dérangé, soit il embarque tout. Et puis on a Jean, Jean aussi, l'auteur de cet évangile qui enquête. Tout le monde enquête. Un des douze, et un des douze qui a maintes fois confessé sa foi en Jésus et qui montre des difficultés à croire. Il se décrit, encore une fois, une preuve de l'authenticité du récit. Si on veut convaincre des gens, on va arriver avec, surtout en tant qu'auteur, une conviction qu'on veut donner aux autres. Là, il se décrit lui-même comme incrédule. Je ne pense pas que ce soit la meilleure stratégie pour transmettre une conviction à quelqu'un. Il nous est dit au verset 9, « En effet, ils n'avaient pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. » Et on s'imagine un Jean qui, depuis 3 jours, tout s'est effondré autour de lui. Ça fait 3 ans qu'il suit celui qu'il a confessé comme étant le Messie, celui qui a vu faire des miracles, celui qui a incarné un message de paix, un message d'amour, celui qui devait être le roi du peuple, le sauveur. Ça fait 3 ans qu'il le suit, ça fait 3 jours que tout est parti. Tout s'est effondré devant lui. Il n'y a plus rien qui tient debout. Alors on l'imagine peut-être pas ne pas avoir cru pendant 3 ans, mais en tout cas avoir sérieusement douté depuis 3 jours. Ça, on imagine facilement Jean dans cet état-là. Et alors qu'il arrive au tombeau, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un tombeau vide. Et là, d'un seul coup, il y a tout qui se met en perspective. Il a les prophéties de l'Ancien Testament qui arrivent. Il a le nombre de fois où Jésus a annoncé lui-même pendant ces 3 ans, « Je vais mourir et je vais ressusciter. » Il a la vie éternelle que Jésus a annoncée depuis longtemps qui arrive en perspective et qui, d'un seul coup, la clé de voûte vient, la résurrection de Jésus, c'est ça, la clé de voûte qui vient donner du sens à tout ce message, donner de la cohérence. Ça y est, la vérité est là. Les Écritures annonçaient ça des siècles avant et en elles-mêmes, les Écritures sont une preuve largement convaincante de la résurrection de Jésus. Il a devant lui l'événement le plus extraordinaire de l'humanité, les amis. Et il comprend tout ça à la lumière des Écritures. C'est beau. Et alors, qu'est-ce que fait Jean devant l'élément le plus convaincant de toutes les preuves que Jésus est le Messie ? Il croit. Jésus est bien le Fils de Dieu. Alors on va continuer notre parcours. On a regardé en arrière les éléments de l'enquête. On va regarder un peu en avant pourquoi, en 2 mots, pourquoi croire en la résurrection de Jésus. Et on va lire la suite du texte. Je lis à partir du verset 16. Marie vient de rencontrer Jésus, elle le prend pour le jardinier, on en est là. Verset 16. Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et il dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains, son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des douze n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors, quand les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt et regarde mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » On parlait de l'enquête tout à l'heure, l'enquête pour un crime. Le problème, c'est que dans une enquête pour un crime, le mort n'est plus là pour parler de ce qui s'est passé. Et là, on a une enquête pour une résurrection. Et le mort n'est plus mort. Il est ressuscité. Et donc, il parle. Et qu'est-ce qu'il dit ? Un des premiers trucs que Jésus dit, il appelle Marie par son nom. On l'a chanté tout à l'heure. Il appelle Marie par son nom. C'est beau, c'est touchant. Et c'est à ça qu'elle reconnaît que c'est Jésus. Au son de la voix de Jésus qui l'appelle par son nom. Les amis, Jésus connaît votre nom. Ça, c'est beau. Il nous appelle par notre nom. Ça témoigne évidemment d'une relation personnelle entre Jésus et Marie, et entre Jésus et tous les disciples. Et comme on disait tout à l'heure, bien souvent, la tristesse nous empêche de la tristesse des réalités de ce monde-là nous empêche de voir la joie des réalités spirituelles qui sont devant nous. C'est le cas pour Marie ici. Quand elle lève les yeux, qu'est-ce qui se passe ? Rabouni ! C'est la joie de savoir que celui avec qui elle avait une relation si forte, son Sauveur est là, qu'il est ressuscité, qu'il est là pour elle. On a ensuite Pierre et les disciples. Je les mets ensemble parce qu'il me semble qu'ils réagissent un peu de la même manière. Ils sont ensemble dans cette chambre, dans cette salle enfermée. Ils sont tout verrouillés. Ils ont peur des chefs juifs, le texte nous dit. Ils ont probablement, eux aussi, des sentiments très emmêlés, sans trop... En fait, ils ont eu... C'est 3 jours qu'ils sont dans le deuil. Ils ont Marie qui est venue, qui dit « J'ai vu le Seigneur !» Comment est-ce qu'ils ont pris la nouvelle ? Je ne sais pas. Encore une fois, le témoignage des femmes à l'époque... C'est compliqué. Ils ont Jean qui arrive, qui dit « J'ai compris, regardez les prophéties !» Il a certainement dû prendre le texte et leur montrer « Le tombeau est vide !» Regardez ce que disaient les prophéties. Mais on les imagine craintifs, en tout cas le texte le dit, on les imagine un peu emmêlés dans leurs sentiments, dans leurs émotions. Et je pense que là aussi on peut voir quelque chose, les amis, c'est qu'une fois... Notre foi, quand elle n'est pas imprégnée de la vision de Jésus-Christ victorieux et ressuscité, alors on a une foi timide, peureuse. On a besoin de la vision de Jésus-Christ ressuscité pour que notre foi soit expansive, soit partageable, soit joyeuse. Là, on a des disciples qui savent que Jésus est tout-puissant, mais en théorie. Ils savent que Jésus, que Dieu est bon, mais en théorie. Que la vie éternelle, c'est pour eux, mais ça reste une théorie. On a besoin que Jésus nous ouvre les yeux, c'est ce que Jésus vient faire. Il vient au secours de leur incrédulité, il se présente devant eux. Et vous avez vu ce qu'il apporte, ce qu'il leur donne directement. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Dans ces circonstances hostiles où ils étaient menacés par les chefs religieux, que la paix soit avec vous. C'est ce que Jésus leur apporte. Et je pense que dans le tas, il y en a un pour qui cette paix-là, il a dû la prendre et la saisir très fort et pas la lâcher. Pierre, dans le chapitre juste avant, c'est le procès de Jésus. Il a renié Jésus 3 fois et Jésus est mort. Il en est resté là. Et ça fait 3 jours qu'il est avec ce sentiment de dire « j'ai suivi le Messie pendant 3 ans, arrivé au moment où il ne fallait pas lâcher, j'ai tout lâché. » Il doit vivre avec ce sentiment terrible. Et quand Jésus arrive et qu'il dit « Pierre, que la paix soit avec toi. » Je pense que ça doit lui changer quelque chose dans son cœur. Je pense qu'il a saisi cette paix avec tellement de bonheur. Et avec la paix que Jésus leur donne, il leur donne aussi le Saint-Esprit qui arrivera plus tard dans Actes. Là, c'est une annonce, en quelque sorte. Jésus arrive, il donne la paix, il donne le Saint-Esprit et il donne une mission. On avait des disciples qui étaient repliés sur eux-mêmes, qui étaient enfermés. Et Jésus arrive, il leur donne tout ça avec une mission plus enfermée, avec l'idée d'aller vers les autres. Voilà ce que ça fait de passer d'une foi où on a oublié que Jésus était ressuscité à une foi où on a cette vision d'un Christ ressuscité. Et on passe à Thomas, 8 jours plus tard, même scène, sont enfermés dans une pièce, les portes verrouillées. Thomas, on le connaît habituellement comme le rationnel, la culture, les arts le décrivent comme celui qui veut les preuves scientifiques. Et oui, clairement, Thomas, c'est un sceptique, il veut les preuves scientifiques, mais je pense que plus qu'un sceptique, en fait, on a ici quelqu'un qui est réellement désespéré. Je pense qu'on a ici quelqu'un, avec Thomas, on a quelqu'un qui a mis toute sa confiance en Jésus pendant 3 ans. On sait dans le reste des récits des évangiles que c'était quelqu'un de très fervent, prêt à suivre le Seigneur jusque dans la mort. On a ici quelqu'un qui a mis ses espoirs dans ce Jésus, et Jésus n'est plus là. Et je pense que oui, c'est Thomas le sceptique, mais aussi c'est surtout Thomas qui dit une fois mais pas deux. J'ai mis ma confiance dans ce Jésus-là, il n'est plus là. Avant que je refasse confiance, moi je veux des preuves. Je veux des trucs solides. C'est ça la démarche de Thomas. Plus que le sceptique, on a vraiment quelqu'un, je pense, qui est désespéré et qui a devant lui, qui veut s'accrocher uniquement à des choses, des preuves matérielles, des preuves tangibles. On n'a pas trop le temps de rentrer dans la question du matérialisme scientifique, de la foi versus la science, tout ça. On peut en discuter à la fin, si vous voulez. Je vous donne juste un élément. On a souvent dans notre tête, on oppose les deux. Bien évidemment, les deux ne sont pas opposés. Les deux regardent les mêmes questions, mais avec des approches différentes. Donc, les réponses vont être différentes. Mais dans notre culture, on reste persuadé que la science dit le contraire de la foi, ou vient contrer la foi plutôt. Et ça, les amis, il faut avoir en tête que depuis le 15e siècle à peu près jusqu'au début du 20e siècle, effectivement, la science est allée dans cette direction en disant avant, on avait un monde avec des croyances transcendantes, où on croyait en Dieu. Et puis la science est arrivée en disant on n'est pas obligé de croire en Dieu pour expliquer l'origine de l'univers, on n'est pas obligé de croire en Dieu pour expliquer l'origine de la vie, etc. etc. Et les découvertes scientifiques sont allées comme ça, à peu près du 15e siècle jusqu'au début du 20e, on va dire. Sauf que depuis quand même quelques temps, les découvertes scientifiques vont plus tout à fait dans ce sens. Et la croyance populaire reste avec cette trajectoire-là, mais les découvertes scientifiques continuent d'avancer, et les découvertes scientifiques continuent de dire, là, en ce moment, en fait, ce qu'on a établi comme hypothèse pour dire que le monde peut exister sans croire en Dieu, ça tient plus tant la route que ça, en fait. Et même plus que ça, de nombreux scientifiques, depuis plus d'un siècle, commencent à dire, en fait, le plus rationnel, le plus raisonnable, c'est d'imaginer qu'il y a un créateur. Les scientifiques en sont pour beaucoup là à constater ce truc-là. Donc, dans notre tête, la partie preuve matérielle, la science qui vient contrer la foi, etc., etc., c'est C'est plus tout à fait juste comme ça dans la science moderne, et c'est une croyance qu'on traîne de siècles passés, qui sont là et qui viennent peser sur ce qu'on a dans la culture. Thomas veut des preuves, et quand il voit, quand il a ces preuves, il a cette confession, merveilleuse confession, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Les amis, il y a une place pour l'épreuve, il y a une place pour enquêter, aller chercher des éléments convaincants, raisonnables, qui parlent à notre raison. Il y a une place pour ça, c'est ce que ce texte nous montre avec Thomas. Jésus, il poursuit, il dit « Heureux ceux qui croient sans voir ». Il y a un moment où il n'y a plus l'épreuve et il y a un pas dans le vide. Et la foi, c'est ça. S'il y a une place pour enquêter, il y a aussi une place pour la tristesse. On l'a vu avec Marie, qui est triste de tristesse. Thomas qui est désespéré d'avoir mis sa confiance en Jésus qui n'est plus là. Les disciples qui sont peureux de l'hostilité et des circonstances hostiles qui a en face d'eux. Mais les amis, la résurrection de Jésus, ça change tout ça. Ça vient changer la tristesse de Marie, ça vient changer le désespoir de Thomas et la peur des disciples. Il faut qu'on puisse vivre avec cette vision de Christ ressuscité. Si on reste avec Christ crucifié sur la croix dans notre tête et qu'on n'a pas la fin de l'histoire, on a une foi où il manque toutes ces parties-là. Alors on va conclure dans un instant, on aura un temps de prière. On va lire, pour conclure, on va lire les deux derniers versets de ce chapitre, qui sont aussi les versets qui font un peu la boucle de l'ensemble de l'évangile de Jean. Et je vous invite à être attentif parce que Jean vous parle dans ces deux versets. Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean vous a écrit une lettre. Il a rassemblé les preuves, et la preuve la plus ultime, c'est la preuve de la résurrection. Cette règle du jeu, les amis, soyez-en convaincus dans un sens ou dans l'autre, mais ne la laissez pas juste sur le côté à prendre la poussière. Si Jésus est ressuscité, alors la vie éternelle existe. Si vous croyez que Jésus est ressuscité, je prie que ces visions de Christ ressuscité suscitent chez vous des rabounis. Ce terme affectueux pour dire « maître », suscite en vous des confessions comme Thomas. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Si vous ne croyez pas, les amis, que Jésus est mort et ressuscité, enquêtez. Menez votre enquête, cette question doit être résolue. C'est une règle du jeu, le jeu dans lequel vous êtes, et on doit savoir si elle existe. Jésus est ressuscité, il est tout-puissant, pas juste en théorie, il est tout-puissant. Jésus est ressuscité, il est bon, la vie éternelle, c'est pas juste en théorie. Jésus est ressuscité, il est le Fils de Dieu, il a réconcilié les croyants avec Dieu et il a ouvert le chemin vers la vie éternelle. On va prendre un temps pour prier, je vous invite à ce que ce temps de prière soit des prières de confession de votre foi, de qui est Jésus, ce Jésus ressuscité. À la lumière de Thomas, on voit son cœur plein d'adoration devant son maître et son Seigneur. Je vous propose un temps de prière dans cette direction et je conclurai pour la scène ensuite. Notre Père, te dire gloire à ton Fils Jésus ressuscité. On va te dire que Jésus est notre Dieu, que Jésus est notre Seigneur, qu'il est notre Sauveur. On va te dire que Jésus est notre frère et Père, je prie que de savoir que notre frère nous appelle par notre nom, nous réjouisse, déclenche chez nous des cris de joie au milieu de nos larmes, comme c'est le cas. Père, je prie qu'on ait une vision de ton Fils, glorieuse, ressuscité. On veut se souvenir de la croix. On veut se souvenir que Jésus est ressuscité et que ce truc-là puisse nous porter, Père, nous porter et nous faire passer d'une foi timide et repliée sur elle-même à une foi qui déborde, qui peut être partagée. Notre Père, on veut te dire merci d'avoir envoyé ton Fils, de l'avoir envoyé pour nos fautes, de l'avoir condamné à notre place et de l'avoir ressuscité. Gloire à toi. Amen. On va lire ce que Jésus a dit à ses disciples le vendredi, à quelques heures de ça. Ce que Jésus disait dans l'intimité de la chambre haute au moment de la scène. Je suis dans Marc 14, les versets 22 à 25. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous, et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Le corps brisé de Jésus, le sang versé de Jésus, mes amis, c'est une invitation pour tous. Tout le monde est invité à Jésus sur la croix brisé. Le repas du Seigneur, c'est le privilège des croyants. Les croyants qui savent être pardonnés devant Jésus, devant Dieu. Et je vous invite à prendre cette scène en ayant en tête que Jésus n'est pas resté mort, qu'il a payé le prix, son corps brisé, son sang versé. Il a payé ce prix-là, mais il n'est pas resté mort. Il nous a ouvert la voie pour la vie éternelle. Si vous êtes croyant, si comme Thomas vous avez dit, mon Seigneur et mon Dieu. Vous êtes les bienvenus à la table du Seigneur qui se trouve derrière moi, le pain et le vin. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez venir vous servir.
Je suis à lui, rachetez-moi.